Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, ben,
ah ben si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors déjà, pour commencer, peut-être resynthétiser les éléments sur cette épidémie de Covid-19 qui sera donc le centre de cette émission d'aujourd'hui.
Oui, sur le plan du travail, c'est-à-dire de ce qu'il faut savoir si on est plus ou moins obligé de se rendre au travail, c'est le sujet central. Alors d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu des avancées dans la connaissance de ce Covid-19 qu'on appelle aussi coronavirus. Il est bien sûr confirmé qu'il est extrêmement contagieux avec un risque de mort, ce qu'on appelle un risque létal, y compris pour ceux qui travaillent encore. Donc c'est pas uniquement les personnes âgées. Bon, ça c'est quelque chose qui est à peu près acquis, mais depuis peu de temps, hein, puisque finalement, dans un premier temps, on nous disait que c'était les vieux, donc a priori pas ceux qui étaient au boulot. Et la deuxième chose qu'il faut savoir en relation avec le travail, c'est qu'au moins la moitié des personnes contaminées n'ont pas ou peu de symptômes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas faire de classification avec des gens qui auraient des symptômes et ceux qui n'en auraient pas pour aller au boulot, puisqu'en fin de compte, on peut très bien être une personne qui peut contaminer les autres sans le savoir soi-même et sans avoir de symptômes. Donc ce qui rend les choses encore plus compliqué pour finalement se rendre dans une collectivité de travail. La dernière chose dans le domaine, c'est que la période d'incubation, alors c'est un peu variable selon les pays, mais grosso modo, on la fixe entre 2 à 12 jours. C'est pour ça d'ailleurs que les mises en quarantaine sont fixées à 14 jours, c'est-à-dire 2 jours de sécurité. Ce qui veut dire qu'avec cette période d'incubation, et avec le fait qu'on ne peut pas savoir qui est contaminé, puisqu'en France, on n'a pas, pour l'essentiel, on n'a pas de détection, on n'a pas de dépistage, on est dans l'inconnu si on se rend au travail, dans une collectivité de travail. Et la dernière chose que je voulais dire, qui a aussi beaucoup évolué ces derniers temps, c'est qu'on parle bien sûr des postillons, etc., mais le coronavirus survit sur des objets, il survit quelques heures sur des objets secs et il peut survivre quelques jours sur des objets humides, ce qui rend les choses encore plus compliquées quand on est au boulot. Ça, c'est le contexte général, mais que je rappelle parce que évidemment, il va falloir prendre ça en compte pour tenter de se protéger si on va au travail.
Alors justement, les obligations du Code du travail en la matière.
Alors en fait, il n'y a rien à inventer, sauf que ce sont des articles de loi qui sont assez peu connus. Il y a tout un chapitre du Code du travail sur ce qu'on appelle le risque biologique, et là, c'est par excellence, bien sûr, le risque biologique qui nous intéresse, que je vais développer un peu par la suite. Alors il y a ce qu'on appelle les obligations générales de prévention, qui concernent, en fin de compte, tous les types de risques qui sont de la responsabilité de l'employeur, mais en plus, on a ce chapitre des risques biologiques qui répondent à la question pour peu que ça ne reste pas confidentiel et on va en dire davantage. Il faut savoir, par exemple, que le Covid-19 est classé catégorie 3 dans cette réglementation et donc quand on regarde le Code du travail, on regarde ce qu'il faut faire. Pour un virus classé catégorie 3, évidemment, il y a des choses à prendre très au sérieux et des choses très rigoureuses.
Par quoi commencer en matière de prévention, Philippe ?
Alors, la première chose à faire, c'est, dans les obligations générales de prévention, c'est d'abord, il y a une espèce de hiérarchie de choses à faire, et la première chose, c'est la suppression du risque. Et la suppression du risque, dans la mesure où, sauf exception, on ne va pas réussir à régler tous les problèmes que je vais évoquer plus tard, eh bien la suppression du risque, c'est tout simplement d'obéir finalement aux consignes du gouvernement, à savoir le confinement, ce qui veut dire que sauf quelques très rares activités, on ne devrait pas pouvoir nous obliger d'aller au boulot, sauf évidemment si on travaille dans la santé, dans l'alimentation, à produire de l'électricité, etc. Donc la première des choses, c'est tout simplement de ne pas se rendre dans des collectivités de travail. C'est la loi d'ailleurs, hein, c'est l'obligation générale de prévention numéro un, la suppression du risque. Et là-dessus, le gouvernement a un double discours qui est absolument insupportable du point de vue de la santé.
Ce risque, comment on l'apprécie ?
Eh bien ça, c'est également une obligation du Code du travail, l'obligation d'évaluer le risque, et d'évaluer le risque pour chaque poste de travail. Et ça, c'est cette obligation qui concerne toutes les entreprises, doit être retranscrite dans un document qui s'appelle document unique d'évaluation des risques. Et ce document a non seulement doit être actualisé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir y lire ce qu'on y fait par rapport au coronavirus pour chaque poste de travail, et ce document est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est bien évidemment les salariés. Donc vous devez pouvoir lire sur ce document ce qui est fait pour prévenir le risque pour votre poste de travail.
Et est-ce qu'on peut avoir connaissance des cas suspects ou avérés de contagion dans l'établissement dans lequel on travaille ?
Alors ça, c'est une mesure également du chapitre sur les risques biologiques. On n'est pas du tout dans le secret médical, là. Le secret médical disparaît, parce que d'abord, c'est pas une affaire de vie privée, c'est une affaire de contagion. Donc, qui dit affaire de contagion, risque biologique, l'employeur a l'obligation d'informer les autres travailleurs, le médecin du travail et bien sûr les délégués, de cas qui seraient soit suspects, soit avéré de dissémination finalement de ce virus avec des gens qui seraient pas en capacité de venir au boulot parce qu'ils auraient de la fièvre par exemple, hein. Donc je dis bien suspect ou avéré, ou des gens qui repartiraient de l'entreprise parce qu'ils se sentent pas bien. Donc ça, en matière de contagion, il n'y a pas de secret médical, il y a une obligation de transparence. Et vous devez, chacun doit être au courant finalement de ce risque s'il existe, enfin si le risque dans la collectivité de travail finalement arrive, c'est pas de la confidence, ça, tout le monde doit être au courant.
Alors, en plus de la réorganisation générale du coup pour se distancier physiquement, on en est où par rapport au nettoyage des locaux ?
Oui, alors là, c'est évidemment aussi finalement une disposition spécifique sur les risques biologiques. Donc, il peut sembler finalement évident de dire que ce nettoyage des locaux doit être très rigoureux. Il faut d'abord s'assurer que les produits utilisés correspondent bien finalement à finalement la destruction des virus. Hein, c'est pas toujours le cas. Alors bon, on sait que l'eau de Javel est efficace, donc ça c'est déjà facile puisque c'est un produit commun. Il y a des produits spécifiques qui détruisent les virus, hein, les produits halogénés par exemple, ou chlorés, ça marche très bien. Donc s'assurer que les produits qu'on a sont ce qu'on appelle virucides, ça c'est la première chose. S'assurer que le nettoyage est particulièrement rigoureux, et il doit l'être puisque j'ai dit tout à l'heure que le virus finalement résiste dans les milieux humides, hein, je pense en particulier aux vestiaires et sanitaires. Donc tout ça, ça doit être, je dirais, encore plus rigoureux que d'habitude, puisque bien sûr la loi impose que finalement les locaux soient propres, mais là il y a besoin d'en faire encore davantage, hein. Je pense aux poignées de porte, etc.
Et du coup, pour les objets, pour les surfaces potentiellement contaminées, comment ça se passe ?
Eh bien, par exemple, il y a des lingettes virucides, hein, je viens de parler des poignées de porte. Hein. Si vous avez du matériel qui est commun, qui est utilisé par plusieurs personnes, il faut utiliser des gants étanches, ou alors il faut procéder à chaque fois, finalement, à un nettoyage adéquate de ces outils. Alors quand je dis outils, hein, ça peut être des claviers d'ordinateur, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être du matériel de bureau, ça peut être des outils. Donc tout ça doit être considéré soit comme des outils individuels, soit il faut utiliser des gants ou les désinfecter à chaque fois que finalement on change d'utilisateur. Donc ça également, c'est une obligation.
Concernant le masque, on en est où ?
Alors le masque, il y a beaucoup de désinformation en France, compte tenu du fait qu'il n'y en a pas assez, tout simplement. Puisque si vous allez dans d'autres pays, par exemple la Chine, j'ai téléphoné ce matin à l'ambassade de Chine pour qu'ils me confirment, en Chine, les gens n'ont le droit de sortir que s'ils portent le masque. Sinon, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Vous voyez que c'est notre école. Donc en fait, ce qu'on nous raconte en France, c'est uniquement parce qu'il y a pénurie et pas autre chose. Donc du fait qu'il y a pénurie, on nous raconte n'importe quoi. Hein. Le simple masque chirurgical protège en réalité les autres, mais ne protège pas, quand je dis protège les autres, c'est-à-dire par rapport à vous si vous êtes malade, hein, mais ne protège pas de la contamination des autres. Ça marche que dans un seul sens. Par contre, le masque qui marche dans les deux sens, c'est le masque dit FFP2 ou éventuellement le masque dit FFP3 qui, lui, peut faire l'affaire en remplacement du FFP2. Donc, en fait, c'est bien une bonne mesure. Et donc, si on peut comprendre qu'on priorise les secteurs, notamment dans la santé, où ils en ont encore plus besoin qu'ailleurs, il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est une bonne mesure en termes de prévention pour tout le monde. Et je dirais qu'il n'y a que la ministre, la porte-parole du gouvernement, qui explique à la télé que finalement, ça sert à rien puisque les gens savent pas mettre un masque. Donc c'est nouveau, ça vient de sortir. Ils sont capables de tout inventer pour justifier la pénurie. C'est, pour le moins, c'est pas honnête.
L'hygiène des mains, du coup, on peut compenser par ça.
L'hygiène des mains, il y a une obligation générale de fournir de quoi se laver les mains. Ça, c'est dans le code du travail. Je dirais pour tout le monde, c'est pas si répandu que ça. Hein, notamment, on le voit régulièrement pour les gens sur les chantiers. Mais en cas de risque biologique, c'est le code du travail, hein, l'article R4424-5, qui dit, lui, risque biologique, et il dit, il faut que ce soit un antiseptique pour la peau. Alors, pour certains savons, types de savons, ça peut faire l'affaire, mais il faut bien s'assurer qu'on est bien dans ce cas de figure.
Et concernant les risques psychosociaux?
Alors les risques psychosociaux en ce moment, c'est pas n'importe quoi, évidemment. Hein. Il y a de l'angoisse ici et là. Il y a de l'angoisse pour plusieurs raisons et il faut aussi s'en préoccuper. Alors les raisons finalement des risques psychosociaux accrus dans la période qui également doivent être pris en compte par l'employeur. Ça peut être soit la quantité excessive de travail du fait d'une diminution des effectifs, hein, on a ça dans certaines entreprises. Ça peut être aussi l'augmentation de la complexité des tâches sans formation préalable, c'est-à-dire d'aller remplacer là finalement où on n'y connaît pas grand-chose. Ça peut être un mélange entre travail et hors-travail, en particulier lorsque les moyens n'ont pas été mis en place pour télétravailler sereinement, hein. Donc le télétravail, pourquoi pas, mais à condition que les conditions soient véritablement remplies du côté finalement de celui qui va travailler à distance chez lui, hein. Je pense en particulier aux gens qui ont des petits logements, aux gens qui ont des enfants à garder dans la même période. Évidemment, ça devient pratiquement impossible si les enfants tournent autour de la table. Donc il faut également le prendre en compte et ça peut pas être une décision à sens unique. Bien sûr, également, et on l'a vu, et je pense à un exemple avec Elus, les questions d'agressivité, de violence externe, hein, ça peut arriver également. Hein. La prise en compte de la souffrance de l'autre, en particulier dans les secteurs de la santé, bien sûr. Et les injonctions paradoxales. Alors, c'est quoi une injonction paradoxale? C'est quand on vous dit tout et son contraire. Et là, le gouvernement est très fort, puisqu'il dit aux gens qu'il faut se confiner et il dit en même temps il faut aller au boulot. Ça, c'est typiquement ce qu'on peut appeler une injonction paradoxale. Et puis aussi les conflits de valeurs, hein, les injonctions de rester au travail sans avoir, par exemple, les moyens de se prévenir correctement. Et pour terminer, là, je ne vais pas en faire toute une grande liste, mais je parle que des principales. Bien sûr, l'insécurité sur le lendemain, sur ce que deviendra le contrat de travail, les menaces de licenciement. Donc, tout cela, et j'ai pas encore tout dit, mais j'ai cité que ce qui me semblait être le plus important, eh bien, ce sont des risques psychosociaux qu'il faut également prendre en compte dans la période.
Alors, dernière question. Le rôle, quel est le rôle des médecins du travail, des infirmiers, des spécialistes de services de santé au travail ?
Bah, théoriquement, ce sont eux les véritables experts, donc il faut encore qu'ils puissent affirmer leur indépendance, puisque la loi pour les médecins du travail leur confère l'indépendance, mais encore faut-il la gagner dans de nombreuses entreprises, cette question d'indépendance. Eux, ils n'ont qu'une seule mission, les questions économiques, c'est pas leurs oignons. Leur seule mission, c'est éviter toute altération de la santé des travailleurs. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à les appeler. Ils sont là pour ça, c'est leur boulot. Ils sont également là pour étudier les postes de travail et ils ont également un devoir d'alerte. Donc, les médecins du travail, n'hésitez pas. Là, on est complètement dans la situation où il ne faut pas hésiter de les saisir par rapport à un problème tel que je les ai évoqués précédemment. Donc la loi dit qu'il faut adapter le travail à l'homme, c'est également le rôle du médecin du travail qui peut imposer des aptitudes partielles, qui peut imposer sur le papier en tout cas des modifications de poste, et donc vous pouvez également réclamer au médecin du travail qui s'implique sur ces questions. Voilà un petit peu rapidement résumé sur le rôle du médecin du travail. Vous pouvez bien évidemment le saisir. Et pour terminer, si les choses ne se règlent pas par rapport à ce que j'ai dit un petit peu rapidement, eh bien, vous pouvez utiliser votre droit de retrait qui est fait précisément parce que les questions de sécurité qu'on vous les doit, ne sont pas remplies.
Un droit de retrait, si vous avez fait une chronique.
Le droit de retrait en cas de danger grave et imminent, qui s'applique en l'occurrence, puisqu'on a bien vu que le Covid-19, c'était grave. On a bien vu que les contaminations, on pouvait quand même difficilement les prévenir. Et donc, si les conditions d'hygiène, de distanciation, etc., ne sont pas remplies, eh bien, vous avez le droit d'utiliser votre droit de retrait en cas de danger grave et imminent.
Merci beaucoup, Philippe. À bientôt, du coup.
Eh bien, de rien. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Sonnier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh,
c'est
pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.